Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ta mère, ma mère, sa mère, c'est sans doute la personne la plus citée, la plus virtuellement présente des cours de récréation dans les collèges et lycées de France et de Navarre. Convoquée à tout bout de champ, représentée dans toutes les postures et positions, invoquée comme une personne sacrée pour être ensuite copieusement insultée, pour le sacrilège, pour la provocation ultime. La vie de ma mère, sous-entendu, je le jure, sur la vie de ma mère, venant répondre à des dizaines de trouvailles langagières et de situations dans lesquelles sont projetées ces pauvres mères. Ce sont des questions, des devinettes, des « quelle est la différence entre ta mère et ?» ou bien des insultes directes, à connotation sexuelle explicite, dont les réponses décrivent toujours un contexte humiliant. « Ta mère est une pute, elle suce, je la baise, ensemble ou séparément, c'est le message en substance. » Bien souvent, les jeunes n'ont qu'une idée très vague de ce que sont une fellation ou une travailleuse du sexe, surtout les plus jeunes. Souvent, l'insulte a perdu son sens littéral. Elle ne fait plus référence à une mère réelle, ni même à une idée de la femme. Il se peut qu'elle soit un pur jeu de l'adolescence, une stimulation de l'imagination, une compétition entre petits mâles, une manière d'entrer dans la sexualité ou encore une transgression sans intention particulièrement sexiste. Il n'empêche, évidemment, que les mots ont un sens et que commencer sa vie d'homme en insultant les femmes et les mères n'est pas sans conséquences sur l'avenir de notre société. C'est pourquoi, comme nous avons les pieds sur terre et que c'est bien connu, nous sommes allés voir des lycéens de part et d'autre du périphérique, dans le 17e à Paris et à Bobigny, et nous leur avons demandé de nous parler de la façon dont ils parlent de leur mère et aussi de leur mère, la vraie, le référent, l'être humain. Tout de suite donc, c'est la vie de ma mère, dans tous les sens du terme, par Delphine Saltel, évidemment.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Les gens, ils jurent la vie de ma mère pour un oui ou pour un non. Pour n'importe quoi, ils sont prêts à jurer la vie de ma mère.
C'est comme si on jurait sur un livre religieux ou... Enfin, je sais pas, c'est comme ça.
Quand on dit quelque chose à quelqu'un et la personne ne croit pas, on dit sur la vie de ma mère. Et là, c'est une certitude.
Moi, je me verrais jamais dire la vie de mon père. C'est pas naturel. Parce qu'on tient plus à notre mère. Enfin, notre mère, c'est la figure principale.
On a, la mère, elle a une plus grande place dans notre vie que notre père. C'est la bosse. Elle nous regarde et on se calme. On aime notre mère, mais elle nous fait peur. T'as 20 ans, t'as 30 ans, t'es un grand garçon, t'es fort, ta mère elle te met une baffe, tu t'assois et tu pleures. C'est ça.
Ma mère, ben, le matin elle se lève, elle va au travail. Elle travaille dans un collège, elle travaille à la cantine. Elle place les entrées dans les trucs, elle sert les élèves. Et elle aime bien. Juste à la fatigue, c'est tout. Quand elle rentre, elle se met à l'aise. Elle prend un café. Elle s'assoit dans son lit devant la télé. Comme elle est fatiguée, elle n'a pas envie de faire. Du coup, elle va me dire fais ça ou fais ça. Elle veut que jette les poubelles, je fais la vaisselle. Voilà. Avant, il y avait moi, ma grande sœur et son fils. Mais là, ils ont déménagé. C'est-à-dire, dans la maison, il n'y a que moi et ma mère.
Comment tu la trouves, cette vie?
Mais moi, je trouve qu'elle est, elle est pas triste. C'est pas une belle vie, mais elle est normale, sa vie. Elle se plaint pas de la vie. Ça serait mieux si elle habiterait autre part. Dans des endroits luxueux ou un genre, de quelque chose dans le genre. C'est toujours mieux d'habiter dans un endroit meilleur. Parce que habiter à Bobigny, c'est nul. Mais elle, ça la dérange pas.
Bah, c'est vrai,
ils sont tous
ça en soufflant.
Mais grave.
La vie de ma mère commence quand elle a 17 ans. Elle est venue en France avec mon père. Ils étaient en couple. Ils venaient d'arriver de Wenzhou, en Chine. Ils n'avaient pas de papier, ils n'avaient pas vraiment d'argent, d'appartement, d'emploi. Mais ils ont réussi à trouver un appartement dans le 10e. Après, du coup, ma sœur et moi, on est nés en 2003 et en 2005. Après, mes parents ne me racontent pas vraiment leur arrivée en France. On n'en discute pas vraiment. Après, je n'ai pas non plus les forcer. Et de toute façon, là, je n'ai pas vraiment le temps de les voir. Parce que du coup, là, ils sont occupés au restaurant dont ils sont propriétaires. Ma mère, elle se lève dans les environs de 6h-7h. Du coup, le temps que je me réveille, elle est déjà partie. Et quand je rentre des cours, dans les environs de 16h-17h, ma mère n'est pas encore rentrée parce qu'elle travaille encore au restaurant. Mes parents, ils rentrent dans les environs de minuit, 1h du matin. Du coup, on n'a jamais le temps de se voir. Donc, en gros, il y a mon père qui est en cuisine, ma mère qui s'occupe de tout ce qui est ménage, faire la vaisselle, tout ça. Et ma sœur va s'occuper d'accueillir les clients, de les servir. Ils sont que trois quand même dans un restaurant pour gérer tout ça. Et du coup, ma mère, je la vois jamais. Sauf si je vais dans leur restaurant, je vais les aider. Et c'est quand même l'une des seules occasions où je peux les voir. Et vu que ma mère, elle s'occupe vraiment que du ménage, on se parle, mais c'est pas des discussions merci, dans le sens où on sera là en mode. En fait, on va pas forcément beaucoup se parler, on va se parler que quand c'est nécessaire, on va dire. Quand on se parle, c'est juste quand moi je vais lui demander de signer des papiers pour le lycée, ou alors elle qui me demande de traduire un truc, ou faire un chèque, tout ça. Du coup, on se parle vraiment rarement que si elle a des trucs à me demander, ou moi des trucs à lui demander. Mais c'est pas parce que je l'aime pas ou parce qu'on essaie de s'éviter, c'est juste parce que y a rien à dire, du coup on préfère pas parler. Et je pense qu'on est quand même assez distante dans le fait où elle parle pas vraiment français et moi je parle pas vraiment chinois. Du coup, on peut pas vraiment se comprendre, du coup, autant ne pas se parler. Du coup, ça reste froid quand même entre nous deux. Parce que elle montre vraiment pas du tout ses sentiments. Mais c'est pas intentionnel. C'est juste comme ça depuis que je suis toute petite. Du coup, ça serait bizarre que d'un coup on soit très proche et qu'on se mette à parler de tout et n'importe quoi. Et du coup, j'ai pas du tout l'impression de la connaître, même si c'est ma mère. Je pense qu'elle a eu une vie quand même assez dure, dans le sens où elle est venue assez jeune, 17 ans, en France, toute seule, sans papier, sans argent, sans ses parents, comme ça, avec son petit ami de l'époque, du coup mon père. Et je suis fière parce que du coup, elle a pu construire sa vie comme ça sans rien, alors qu'elle savait quasiment rien du tout. Mais maintenant, elle a réussi, elle a un boulot. On peut dire quand même qu'on a vraiment évolué dans le sens où avant, on avait un petit appartement tout miteux. Alors que maintenant, on habite à Bobigny, on est dans un bon appartement. Et du coup, je pense qu'elle doit être quand même contente de sa vie, dans le sens où on n'est pas dans le besoin. Et je pense qu'elle est quand même contente pour moi, parce que dans le sens où je suis celle dans la famille qui ramène les meilleures notes, du coup, en général, elle est contente de moi quand même. Parce que je suis sage, je suis studieuse, j'ai des bonnes notes, et du coup, ça lui suffit.
Tu voudrais faire quoi?
Je voudrais faire dans les langues. Parce que du coup, c'est là où je suis la plus forte.
Peut-être qu'on dit, mais ta mère, ça veut peut-être dire, tu fais quoi là? Genre, non, ta mère, genre. Mais ça peut rythmer aussi les phrases. Par exemple, prends pas ça, ta mère. C'est cool.
Il y a peut-être des gens qui se disent que c'est stylé ou pas, et donc ils veulent le réutiliser pour comme un effet de mode, je pense. Parce que ça ne vient pas de nous, parce qu'on vient d'un milieu privilégié, je pense.
Ouais, je pense qu'ils essaient de se créer un côté un peu cool. Dire, moi je suis le petit gars du 17e, Mais aussi, je vais pouvoir parler comme mes potes qui sont dans d'autres bahuts. Je suis pas que centrée sur moi, avec ma PJS et mes AirPods. Je peux aussi parler normalement. Et peut-être qu'eux aussi, ils ont peut-être un peu cette frustration de se dire « Ouais, moi, on me voit comme le gars en costard. » Donc, je pense que oui, ça a un effet de mode.
Ma mère, elle serait choquée que j'emploie ça. Parce que j'utilise pas du tout ce langage et... Enfin, si je l'utilise, je pense que la plupart de mes amis se moqueraient de moi parce que, enfin, c'est pas du tout dans mon habitude de le dire.
La vie de ma mère, en fait, c'est qu'elle travaille dans une maison d'édition juridique, qu'elle est éditrice en chef, et que, justement, elle occupe un poste qui nécessite d'avoir des projets, qui nécessite d'avoir des buts et des objectifs. Après, moi, je suis attiré aussi par le droit, en fait. Les études que je veux poursuivre, c'est dans le milieu du droit, à l'étranger, en France, peu importe.
Et ça t'attire parce que c'est ta mère qui t'a transmis ce goût-là ?
Oui, en fait, c'est depuis que je suis tout petit, voilà, je suis passionné par le droit. Chacun a ses passions, hein, mais elle travaille bien, elle travaille efficacement. Et donc, voilà, ce côté vraiment bosseur, je sais pas si ça a inoculé quelque chose en moi, mais voilà. C'est une mère qui sait être présente et qui prend sa vie en main, en fait, avec brio. Il y a aussi un autre exemple qui est inspirant chez ma mère, c'est le fait qu'elle écrit beaucoup, en fait. Une partie de sa discipline de vie, c'est d'écrire. Elle a écrit un recueil de citations donc organisé par moi, et il me semble que pour le mois de novembre, il y a la citation de Mahatma Gandhi qui est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et donc justement, c'est une citation en fait qui est motivante et qui appelle à vivre en fait sa vie à pleines dents, quoi, à croquer la vie à pleines dents. C'est un modèle au niveau des projets que même personnellement je peux avoir. Par exemple, donc j'écris un ouvrage qui est composé de 50 interviews de personnalités publiques. Il y a des entrepreneurs et entrepreneuses comme Flavie Bébéard. Elle travaille pour le comité des JO 2024. Elle avait rencontré une fois Emmanuel Macron aussi. Ça prouve un petit peu l'étendue de son projet. Il y a des ministres, des premiers ministres de tout pays, du moment qu'on a un sentiment d'appartenance à la France, par leur projet, par leur conviction. C'est centré donc sur leur possibilité en fait de changer le monde de demain, de changer notamment donc la France de demain aussi. Ce livre, c'est un petit peu comme une ode au changement. Ma mère me soutient énormément pour ce projet-là. Ouais, elle me dit que c'est un beau projet, que si c'est quelque chose que j'aime bien, faut que je me donne à fond en fait. C'est un discours qui est un peu motivationnel quand même.
M'embrouille avec quelqu'un, j'insulte sa mère.
Je peux lui dire genre ta mère l'immigré, il va me dire ferme ta gueule, la culotte à ta mère. C'est ça ou pas?
Ouais, voilà.
Ouais, ta mère elle est venue en bateau jusqu'en France et tout, des trucs comme ça.
Non mais en gros c'est pour moquer de la façon comme elle est venue. En gros dire ta mère elle est venue en pirogue, ta mère elle est venue à la nage. Tu vois, c'est pas le fait qu'elle soit immigrée qui est une vanne.
La vie de ma mère, elle a commencé le 25 décembre 1978, quand elle est née, en Algérie, à Hydra. Elle m'a dit qu'elle a eu une enfance difficile par rapport à son père, et que c'était beaucoup de sévérité. Je sais que, bah, du coup, il l'a enfermée, elle se sentait oppressée. Mais je sais que pendant son adolescence, il était dur, et qu'il l'a frappée, ce genre de choses. Elle a des cicatrices encore. Elle a des cercles sur le bras. Et on les voit beaucoup quand même. Et moi, avant, je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était des taches à cause du soleil. Mais du coup, quand j'ai appris la vraie histoire, bah là, j'ai compris. Et j'aurais jamais pensé que c'était des brûlures que son père lui a faites. Avec de la cigarette, en plus, ça fait mal quand ça brûle. Alors d'aujourd'hui, bah, elle y repense encore. Elle n'a pas pu continuer ses études à cause de lui. Elle a étudié jusqu'à ses 18 ans, mais après, il lui en a pas laissé la possibilité. Elle a eu son bac, mais elle m'a confié qu'elle aurait voulu être avocate ou juge. Donc, je pense qu'elle aurait voulu faire des études de droit, mais qu'elle n'a pas eu l'opportunité. Et j'aurais aimé qu'elle aurait continué. Parce que du coup, tout à l'heure que j'y pensais, je me suis dit, si elle aurait été juge ou avocate, sa vie, elle aurait été complètement différente. Et elle aurait été peut-être meilleure pour elle. tout a commencé à mieux aller quand elle a rencontré mon père. Elle l'a rencontré une fois quand elle sortait avec sa grand-mère. Ils allaient faire les courses au marché. Et sa grand-mère, elle a fait un malaise. Et mon père, c'était un des passants qui passait. Et mon père, il les a ramenés aux urgences. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mon père, il a commencé à la draguer. Et ensuite, elle s'est mariée à 18 ans. Et quelques temps après, elle a rejoint sa mère en France, qui habitait déjà là-bas. Elle a habité chez elle pendant 6 ans. Sans papier, chez sa mère, dans une seule chambre, nous tous. Moi et mes frères, on était 5 dans une chambre. Donc, leur situation, elle a commencé à devenir stable une fois qu'ils ont eu leur carte de séjour. Vu qu'elle et mon père, ils travaillaient chacun de leur côté, bah, mon père, il a réussi à trouver un appartement. Du coup, on a déménagé en 2008 à Bobigny, où j'habite actuellement. Je me rappelle encore quand on nous l'a fait visiter, on avait vécu à 5 dans une seule chambre. Quand j'ai vu cette maison, pour moi, c'était le paradis, puisqu'on avait un grand salon, il était énorme, je trouvais ça super grand. Et surtout que je me dise que c'était à nous et que c'était grand. Elle était femme de ménage dans de grands hôtels 4 étoiles. Et elle m'a juste dit qu'elle aimait ça parce que c'était beau, que c'était des hôtels de luxe, que la nourriture, elle était bonne à midi. Je sais qu'il y avait souvent des parfumeries à côté de son travail. Donc, chaque matin, elle passait dans une parfumerie et elle se parfumait. Et c'était rien, mais ça lui faisait plaisir de se parfumer tous les matins avec des grands parfums pour ensuite aller travailler. En fait, c'était des petits gestes qui rendaient sa journée meilleure. À chaque fois qu'elle se parfume avec, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que en fait, ça lui rappelle cette époque. Parce qu'elle ne change jamais de parfum, c'est toujours les mêmes. Donc, elle travaillait à l'hôtel, mais à côté pour gagner plus de sous. Le soir, elle faisait le ménage dans une PMI. Des fois, elle me ramenait avec elle. Moi, je me disais, mais elle fait quoi? Pourquoi on vient ici le soir? Il n'y a personne. Pourquoi on est les seuls? Je me disais, pourquoi on venait tout le temps ici? Maintenant, je comprends mieux. Mais ma mère, elle a commencé à perdre l'audition au fil des années. Elle a développé une maladie rare qui fait qu'elle a dû arrêter de travailler parce que certains travaux n'acceptaient pas le fait qu'une personne soit handicapée. Et sa perte d'audition, elle s'est faite progressivement sans que nous, on le remarque, elle ne nous l'a pas fait sentir. Mais je sais que pour elle, c'était dur que des fois, elle en pleurait parce qu'elle n'entendait pas. Et du coup, quand je la voyais pleurer, moi, ça me faisait toujours quelque chose parce que je la voyais toujours heureuse. Et quand elle a perdu son audition, pour moi, c'est comme si elle avait perdu la moitié de sa vie, en fait. Avant, elle était grave sociable. Elle se mélangeait avec tout le monde. Elle adorait sortir avec les autres, se mélanger. Mais maintenant, elle se mélange plus parce qu'elle a honte de son handicap. Elle parle pas. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Des fois, on me demande si je fais la langue des signes avec elle ou quoi. Mais non, pas du tout, parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais nous, elle entend que nous, que ses proches, 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 proches. Notre famille, elle nous entendra mieux que si elle parle avec un inconnu. C'est bizarre, hein. Mais des fois, elle aime ça, parce que je me rappelle, quand à nos remises de bulletins, la plupart du temps, il me disait toujours des choses. Oui, vos enfants, ils font des bêtises, nanana. Donc, du coup, ce qui faisait qu'elle venait à la remise des bulletins sans ses appareils pour pas entendre et ça l'amusait.
Je pense que quand on parle de la sexualité de sa mère, genre j'ai baisé ta mère ou nanana, et bah en fait c'est parce que en tant qu'enfant, on n'aime pas entendre parler de la sexualité de ses parents, genre pas du tout. Et du coup c'est pour ça que c'est super agressif comme insulte.
La vie de ma mère, elle commence à 7h du matin et pour se finir à 22h ou des fois même 23h quand moi ou mon frère on est malade. À 7h, elle doit se lever pour que mon frère ait son petit déjeuner à 7h15. Et après, il faut qu'elle essaye de me réveiller parce que des fois, c'est pas très très facile. Et après, elle doit mettre dans la vaisselle, elle doit partir. Et quand elle rentre, vers 19h15, elle n'a même pas le temps de se reposer. Elle doit faire directement à manger pour moi et pour mon frère et pour mon père. Mon père rentre à 20h, donc on l'attend avant de manger. Donc des fois, il met la table, des fois, il ne la met pas. Il se met juste à table. Et après, mon père, il mange très vite. Du coup, dès qu'il a fini, il part. Il va dans sa chambre. Et après, ma mère doit débarrasser la table, doit prendre ce qu'il y a dans le lave-linge et étendre le linge. Et des fois, elle doit repasser. Elle doit essayer de dormir pour se réveiller à 7h du matin. Et tous les jours, ça doit être très, très dur de faire ça.
Et elle fait quoi comme travail ?
Elle est éditrice. Je trouve qu'elle travaille beaucoup à la maison surtout et aussi au boulot. Et du coup, ça doit être 100% H24, travailler et pas s'arrêter. Même le samedi ou dimanche, elle doit quand même nous aider à faire nos devoirs, encore faire des lessives, même le week-end. Et quand elle se repose, c'est pendant une très courte durée. Elle n'essaye pas de se battre pour que mon père ait plus aussi de responsabilités à maison. Par exemple, faire la lessive ou le repassage même. Mais elle trouve qu'il travaille déjà assez au boulot et que il n'a pas que ça à faire à la maison. Il doit aussi se reposer pour bien travailler. Parce que comme c'est lui qui fait le plus d'argent, du coup, c'est lui qui doit travailler le plus et du coup, c'est lui qui doit se reposer le plus. Enfin, je trouve ça un peu ridicule, mais quand je lui dis, il me dit que comme c'est moi qui fais le moins à la maison, c'est un peu l'hôpital qui soude la charité. Et du coup, à chaque fois, ça part en bataille et à chaque fois, c'est ma mère qui prend sa défense en lui disant... Mais il rentre tard et du coup, c'est pas grave, qu'il se repose. Il est fatigué, le pauvre. Enfin, en même temps, toi aussi, maman, t'es fatiguée. Mais bon, elle a pas le même point de vue que moi. C'est dommage. Je pense qu'elle le protège parce que elle pense juste qu'il fait beaucoup trop au boulot. Il a une grosse équipe et du coup, il a beaucoup trop de pression et... Comme ça paye assez bien, je pense qu'il reste pour nous aussi. Je ne sais pas forcément combien il gagne, mais il y a beaucoup de zéros, je pense. Du coup, c'est vrai que s'il revient le soir et qu'il est fatigué, des fois, c'est mieux de ne pas du tout lui parler, parce qu'il peut s'énerver très, très facilement. Et après, la soirée est un peu gâchée. Mais moi, je suis beaucoup, beaucoup plus proche de ma mère que de mon père. Ma mère, par exemple, elle sait tous les noms de mes profs. C'est elle qui va pour les rendez-vous. Mon père, il y est allé peut-être une fois dans ma vie. Je pense qu'elle connaît beaucoup plus ma vie que mon père.
La vie de ma mère, ça commence en 1960. Elle est née la quatrième d'une fratrie de quatre sœurs. Son père était musicien et sa mère, elle était dactylographe. C'était une enfance plutôt pas très très aisée, quoi, parce que son père gagnait pas tellement d'argent, il buvait beaucoup, mais du coup, il faisait pas vraiment vivre la famille, donc c'est ma grand-mère qui s'occupait de ça. Et donc, à 16 ans, elle est partie de chez elle. Et donc là, sa sœur, à ce moment, travaillait dans le milieu de la télévision. Et donc, elle l'a aidée à trouver une place là-bas. Ma mère avait fait de la dactylographie, du coup, elle est devenue secrétaire. Puis, de secrétaire, elle est passée assistante. Et puis, au final, elle est devenue productrice. Elle a fait un peu le tour du monde pour faire des documentaires dans plein de pays. Par exemple, la pauvreté en Afrique, sur les enfants qui mouraient de faim. Elle allait en Amérique du Sud, elle allait à Cuba pendant que c'était une dictature. Elle était là pendant la chute du mur de Berlin. Enfin, elle a fait plein de trucs super intéressant dont elle nous parle aujourd'hui et je me dis c'est quand même plutôt fou d'avoir fait ça. Et moi, à cet âge, j'ai encore rien fait de vraiment très spécial, donc forcément un peu ça me met la pression parce que je me dis ma mère elle a quand même fait des trucs un peu fous de là où elle est partie.
Et en un sens, j'aimerais bien faire des trucs de plus que ce qui m'est déjà acquis aujourd'hui. J'aimerais beaucoup faire Sciences Po, même si après j'ai pas d'objectif concret, quoi. Et justement, faut que j'en trouve un peu avant l'année prochaine. Du coup, pendant les vacances, je fais des espèces de stages de prépa à Sciences Po qui préparent à passer le concours.
Et tu vas faire des stages pendant toutes les vacances jusqu'au concours ?
Ouais, pendant toutes les vacances jusqu'au concours, et puis le samedi aussi, l'année prochaine. Sciences Po, c'est particulier, parce qu'on n'est pas seulement jugé sur nos notes, mais aussi sur notre dossier, c'est-à-dire sur ce qu'on a fait dans notre vie, nos expériences, nos voyages, nos activités. En fait, ce que les gens de Sciences Po veulent voir, c'est qu'on est débrouillard et on n'a pas besoin qu'on nous pousse pour qu'on fasse des choses. Et aussi, c'est important d'avoir une ouverture sur le monde. J'avoue, quand on m'a dit ça, je me suis dit, ouais, enfin, c'est compliqué d'avoir une ouverture sur le monde si on vient pas d'un milieu qui le permet, quoi. Et du coup, en faisant ces stages à Sciences Po, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient fait des trucs de fou dans leur vie. Et je me suis dit, waouh, mais c'est... Bah, c'est impressionnant, quoi. Les gens, ils ont mon âge, ils ont tourné des films, ils ont voyagé partout, ils ont... Il y a des gens qui ont fait le tour du monde avec leurs parents, ils ont un groupe de musique, ils font des CD, enfin, des trucs un peu carrément fous par rapport à moi, quoi. Et c'est pour ça que, d'un autre côté, moi, je me dis, merde, qu'est-ce que je fous là? Tous ces gens, ils vont tenter Sciences Po, je sais qu'il y en a moins de la moitié qui seront pris, et genre, je me rangerai pas dans la meilleure moitié, quoi. Enfin, bon... Du coup, avec ma sœur, l'année prochaine, on a prévu un voyage en Afrique dans une association pour aider dans des écoles, faire du bénévolat, ouais. Et après, je le fais pas seulement pour le concours. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Mais c'est vrai qu'avec cette prépa, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir 20 ans pour le faire, quoi. Holding in the old you that was younger then. Crazy demands like every day, and you're turning in early on the weekend. Seems like you're losing what you told yourself you would never give up. So caught in the hype of making a living that you forgot to live your life. But guess what? Can't stop, won't stop. That's what I'm here about to crank it up. It's the summertime, y'all, when the sun ain't setting, so we might as well stay up. Let's throw another beat on the wheels of steel and another shrimp on the barbie. I got a fresh sunburn and some mad appeal, but you know I can't.
C'était La vie de ma mère, un reportage de Delphine Saltel, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Aude, à Paul, à Jean-Luc Yvon, à Leslie Riowal, aux élèves et aux équipes des deux lycées où nous nous sommes rendus, à Paris dans le 17e et à Bobigny dans le 93. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, notre stagiaire.